Le théâtre, le théâtre. Voulez-vous savoir ce que c'est que le théâtre ?
Le théâtre, c'est un art du moment. On est en rapport direct avec les spectateurs.
Pièce détachée, il faut que le théâtre présente une autre forme, une autre manière de vivre.
Sur Radio Campus Paris.
Le théâtre est pour tout le monde, pour vous comme pour les autres. Faut pas être exclusif.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans Pièce détachée, l'émission consacrée aux arts vivants en Île-de-France sur Radio Campus Paris. Ce soir, nous ne sommes pas en direct, mais nous avons le plaisir de recevoir Julie Timmerman pour parler de sa pièce « Un démocrate » qui est actuellement au Théâtre de la Concorde jusqu'au 26 avril. En chronique, on vous parlera de Peter Pan, une mise en scène de Mathieu Comblaz au Théâtre Paris-Villette jusqu'au 28 avril. Et on terminera avec la pièce « Les Gratitudes », une mise en scène de Fabien Gorgéard jusqu'au 27 avril au Théâtre de la Porte Saint-Martin. Mais commençons par l'interview. Merci Julie Timmerman d'être avec nous aujourd'hui.
Merci beaucoup d'avoir invité.
Merci. Pour nous parler de la pièce « Un démocrate » créée en octobre 2016 et aujourd'hui à l'affiche au Théâtre de la Concorde jusqu'au 26 avril.
C'est ça.
Cette pièce retrace en 1h15 l'histoire d'Édouard Bernays, double niveau de Sigmund Freud, inventeur dans les années 20 des nouvelles méthodes de manipulation des masses et auteur du livre « Propagande » et du terme « Relations publiques ». Pourquoi avez-vous décidé de travailler sur ces personnages sombres ? Pourquoi traverser un siècle avec cet homme ?
Je trouve que la vie d'Édouard Bernays raconte beaucoup de notre époque contemporaine. Il a mis au point des techniques de manipulation des masses qui sont aujourd'hui utilisées de façon exponentielle, surtout grâce aux nouvelles technologies, évidemment, l'IA, les réseaux sociaux, Internet au sens large. Mais tout était déjà en germe. Et lui, dans les années 20 à New York, a compris, par exemple, qu'une bonne technique était de distraire le peuple avec des sujets secondaires pour qu'il ne s'intéresse pas au sujet premier, ou de mettre le doute sur un sujet. Voilà, ou de discréditer la personne qui parlait d'un sujet grave. Donc tout ça, il a mis ça au point et il est aujourd'hui une grande référence pour tous les spin doctors et les communicants.
Et donc Bernays se définissait un démocrate et il disait qu'il essayait de diriger les sens dans le bon sens. Mais ça voulait dire quoi pour Bernays, diriger les gens dans le bon sens?
Lui, il était convaincu qu'il savait quelle était la bonne voie, le bon chemin, qu'il travaillait pour les bons clients, ceux qui détenaient la vérité, et que par contre, il avait lu Gustave Le Bon, il avait compris que la masse, la foule, était une entité qui pouvait être terrifiante, qui pouvait être comme une horde sauvage totalement incontrôlable et qu'il fallait absolument la contrôler. Pour ne pas tomber dans la dictature. Voilà, ça c'était son credo. Donc lui, il pense qu'il dirige les gens dans le bon sens.
Et il dit aussi qu'une démocratie, la propagande, c'est que la violence est dans les dictatures.
Oui.
Mais c'était quoi la différence pour Bernays entre dictature et démocratie ?
Lui part du principe qu'il donne les informations au public dont il a besoin pour aller voter ou pour aller consommer, acheter des choses dans les magasins. Il donne les informations en orientant, en disant, bah voilà, ça, en mettant en avant les qualités de telle ou telle chose, mais en réalité, on voit bien que toutes ces, ça c'est ce qu'il pense lui, mais en réalité on voit bien que toutes ces techniques sont des techniques de manipulation qui sont exactement les mêmes qui sont utilisées en dictature et notamment qui seront utilisées par Goebbels dans l'Allemagne nazie puisque Goebbels aura lu aussi les livres de Gustave Le Bon et d'autres et notamment les livres de Bernays. Donc en réalité ce sont les mêmes techniques. Par exemple quand Bernays fait un grand bal vert pour mettre la couleur verte à la mode, de telle sorte que le paquet de Lucky Strike, qui est vert, soit mis au goût du jour et que les femmes aient envie d'acheter ça, puisque le vert n'était pas à la mode, ça posait problème, eh bien, il met en place une technique de manipulation de la foule en changeant la couleur de la mode, qui est très efficace et dont personne n'a conscience. Donc, à partir de là, on peut vraiment se poser la question de la réalité de la démocratie.
Et pourquoi, à votre avis, Bernays a décidé de prêter ses services au monde de l'entreprise? Et pourquoi il ne s'est pas limité, par exemple, au monde politique?
Il a commencé au théâtre, figurez-vous. Il était attaché de presse pour le théâtre, voilà. Après, très vite, il s'est intéressé à la politique. Il a fait partie de la commission Krill, qui était chargée, lors de la guerre de 14, de faire changer l'opinion publique en faveur de la guerre. Le peuple états-unien avait élu Wilson sur un programme de paix. Et en 17, il fallait faire la guerre. Donc, il fallait que le peuple états-unien change de bord. Donc, Bernays a commencé son entrée dans les relations publiques par là. Et après, il n'a cessé de faire de la politique. Mais effectivement, il s'est aussi beaucoup investi dans l'entreprise, parce qu'il considérait finalement que la libre entreprise répondait mieux aux préoccupations du peuple et pouvait améliorer la vie des gens concrètement au quotidien, beaucoup mieux que les politiciens ne pourraient jamais le faire.
Et Bernays n'arrêtait pas de se présenter donc comme les doubles neveux de Freud. Est-ce que vous pourriez nous dire en quoi la pensée de Freud a influencé Bernays?
Alors, je ne sais pas si c'est la pensée de Freud qui a vraiment influencé Bernays, parce que Freud lui-même était assez effaré de voir ce que faisait son neveu. Il trouvait ça vraiment pas très sérieux. Et puis, au bout d'un moment, il en a même été effrayé. Il s'est dit, oulala, qu'est-ce que c'est que ça? Mais au départ, il le prenait pas au sérieux. Il se disait, bon, ça, c'est les Américains, ils font un peu n'importe quoi, voilà. Mais Bernays, lui, a toujours proclamé cette hérédité. Et par exemple, c'est vrai qu'il a été voir, quand il s'agit donc de faire fumer les femmes, il a été voir un psychanalyste états-unien, à New York probablement, qui lui a expliqué que la cigarette était un symbole phallique, un symbole du pouvoir sexuel masculin. Et que donc, si on voulait toucher les femmes, il fallait en priorité aller voir celles qui voulaient avoir le même pouvoir que les hommes. Donc fumer comme les hommes, voilà.
Et même si Bernays, son contexte, un acteur important de la propagande moderne, est-ce qu'à votre avis, ce n'est pas un acteur parmi d'autres du développement de la publicité et du capitalisme en général? Est-ce qu'à votre avis, il a vraiment un rôle précurseur?
Oui, ils étaient 4-5, hein, pas plus, à son époque. Et lui a inventé le terme de « relation publique ». Donc c'est vraiment fondamental aujourd'hui, on parle tout le temps des PR, Public Relations. Mm-hmm. Les docteurs d'aujourd'hui sont les héritiers de Bernays.
Et dans notre société actuelle, où il y a donc les réseaux sociaux, Internet et tout ça, est-ce qu'à votre avis, on peut échapper aux méthodes de Bernays et parle d'un propagande?
Alors, je pense de moins en moins avec la mondialisation et Internet. Aujourd'hui, on n'existe pas sans communication. C'était déjà vrai à son époque, mais ça l'est encore plus. Donc la question, c'est comment fait-on pour garder son libre arbitre, arriver à démonter les systèmes mensongers, les fake news, arriver à chercher bien les sources, se fier à certaines informations, moins à d'autres, sans tomber dans le complotisme ou dans le nihilisme. Voilà, donc c'est toute la question d'aujourd'hui.
Et Bernays, malgré donc tout son œuvre, semble quand même réfléchir à une idée, à un homme idéal. À votre avis, quel homme, il œuvre pour quel homme? Quelle femme? C'est quoi cette humanité idéale pour Bernays?
Alors ça, c'est une bonne question. C'est quelqu'un qui consomme, je pense. Lui, il était partisan d'un gouvernement invisible. Donc, il pense que peut-être pense-t-il, je ne sais pas, ça, j'ai pas trouvé ça, mais peut-être pense-t-il que ceux qui valent vraiment la peine, c'est ceux de son cercle, ceux qui constituent ce gouvernement invisible. Je ne sais pas, l'homme idéal pour lui... L'homme pris dans le capitalisme, ça c'est certain, qui consomme et qui va dans le sens que lui a décidé.
Dans vos pièces, vous parlez souvent de manipulation. Pourquoi cette thématique vous tient à cœur?
Oui, c'est vrai, je me suis aperçue que c'était très récurrent chez moi. La manipulation et l'émancipation. Je m'intéresse vraiment, parce que c'est un des grands thèmes de l'humanité quand même, la question de la liberté. Qu'est-ce qui nous retient d'agir librement? Qu'est-ce qui nous aliène? Donc ça peut être des freins physiques, psychologiques, politiques, économiques, géographiques. Enfin, il peut y en avoir beaucoup, mais voilà, l'étude de ces... de ces éléments d'aliénation, je la trouve passionnante parce que ça donne des outils pour essayer de s'émanciper et gagner en liberté.
Est-ce que vous pensez que le théâtre donc peut encore nous aider ?
Oui, absolument, oui. Je pense que le théâtre, d'autant plus en cette époque qu'on est en train de vivre de bouleversements, de chaos, où les cartes sont totalement rebattues, pas seulement avec l'élection de Trump, mais on voit bien que les grandes puissances dans le monde sont en train de ressortir et de reprendre le leadership. Et voilà, et un monde qu'on croyait révolu est en train de réémerger. À mes yeux, je pense que le théâtre a donc cette fonction encore plus aujourd'hui de s'emparer du politique.
Et malgré donc cette pièce a été créée en 2016, on dirait qu'elle est de plus en plus actuelle.
Oui, c'est ça qui est étonnant. Plus ça va, plus cette pièce est actuelle. C'est assez effrayant même.
Et depuis 2016, vous n'arrêtez pas de la jouer ou vous l'avez décidé de la reprendre dernièrement ?
Non, on l'a toujours jouée. On l'a toujours jouée, soit à Avignon, soit des séries à Paris, et beaucoup en tournée, bien sûr. Et on a une forme légère aussi, itinérante, oui. Qui tourne voilà, deux acteurs, une valise, c'est très léger, ça peut aller n'importe où. Et du coup, on peut aller dans des villages, on peut aller à la rencontre de gens qui ne se seraient pas forcément déplacés au théâtre.
Oui, j'ai vu que vous avez aussi pensé à une formule qu'on peut faire sur une scène publique. Donc,
dans l'espace public. Oui, dans l'espace public, dans les jardins, dans la rue. Voilà, on a pensé à ça.
Et est-ce que vous pourriez me parler du processus d'écriture de cette pièce ? Parce qu'on passe très facilement du récit au dialogue, au chant, au sein des cabarets. Comment vous avez articulé tout ça dans l'écriture ?
Alors, moi, j'ai été très inspirée par un auteur italien qui s'appelle Stefano Massini, qui a écrit l'histoire des Lehman Brothers, la chute de la banque Lehman Brothers. Ça s'appelle « Chapitre de la chute ». Et il utilise le mode narratif. Donc, les acteurs sont les narrateurs d'une histoire et ça ne les empêche pas d'incarner les personnages à plusieurs moments. Donc, en m'inspirant, évidemment, pas en copiant ce que fait Massini, mais en m'inspirant de son écriture, je suis partie finalement dans une écriture, dans un rapport au public, une narration qui est dans un rapport direct au public où il n'y a pas de quatrième mur. Et puis de temps en temps, les scènes sont vraiment jouées et je pense aussi assez drôles par moments, drôles et terrifiantes à la fois. Et c'est par le rire qu'on arrive à dénoncer, c'est par le rire que on se libère aussi, et c'est par le rire que les gens peuvent à la fois passer un très bon moment au théâtre et à la fois, en sortant, réfléchir, penser le monde dans lequel ils vivent.
Et donc, dans l'écriture, vous n'êtes pas du tout passé par une écriture des plateaux avec les comédiens. Vous êtes arrivé avec votre texte.
Non, parce que ça demandait beaucoup trop de travail de recherche. J'ai passé 2 ans et demi à lire dans toutes les langues, enfin surtout en français, en espagnol, en anglais, à lire énormément de choses, à retrouver des documents d'archives. notamment sur Internet, tous les documents d'archives de la CIA sont déclassifiés concernant le coup d'État au Guatemala auquel a participé Vernez. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour moi aussi d'aller chercher dans le passé ce qui éclaire le présent, parce que tout est vérifiable, argumenté, indiscutable. Si j'avais réécrit la pièce entre-temps, hein, puisqu'elle a été écrite il y a 9 ans, si j'avais été tentée de réécrire la pièce, j'aurais été tentée de mettre peut-être des opinions personnelles, ou alors de me tromper sur certaines choses, ou alors... Enfin, ce que j'aurais écrit aurait été sujet à caution. Alors que là, je vais dans le passé, je prends les documents d'archives, je m'appuie sur des choses très solides, contre lesquelles on ne peut rien dire. Par exemple, encore une fois, le coup d'État au Guatemala est un véritable complot mené par le gouvernement américain. On ne peut pas m'accuser de complotiste. Ça, c'est d'être complotiste, c'est vraiment vérifié. Donc ça, c'est très important pour moi, et c'est pour ça qu'il fallait que le spectacle soit absolument indiscutable sur ce qu'on disait. Donc l'écriture de plateau, dans cette mesure, est difficile à mener. Il faut avoir une dramaturgie. J'ai été aidée par une dramaturge, Pauline Timonier, qui m'a vraiment aidée à construire la pièce, pour que l'histoire soit bien lisible et en même temps entièrement vraie.
Donc vous avez fait un travail d'historienne pour arriver à écrire cette...
J'ai rencontré Jimmy Leopold. C'est un réalisateur qui a fait un documentaire sur Arte il y a quelques années, je crois en 2018, qui s'appelle Propaganda, justement. Et Jimmy était très étonné de toutes les informations que j'avais trouvées. Et c'est vrai que j'ai parlé avec de nombreux journalistes, un étudiant qui était allé dans les archives à Washington, Hugo de Sousa de Courcy. Donc voilà, je me suis beaucoup, beaucoup renseignée comme un historien, oui.
Et donc, mais je voudrais savoir quand vous avez rencontré pour la première fois Vernez dans votre vie.
Parce que comment je travaille sur...
Parce que moi, je n'avais jamais entendu parler des Vernez avant de voir votre spectacle.
Oui, tout à fait. En fait, il y a son livre Propaganda, un de ses livres qui est édité dans la collection Zone.
Oui.
Je crois que c'est La Découverte.
Le retrouvé, oui.
C'est La Découverte, oui. Et en 2010, j'ai monté un spectacle sur Orwell. Je me suis intéressée beaucoup à la manipulation des masses. Et très naturellement, en fait, je suis tombée sur ce livre qui, je pense, venait d'être réédité. Et dans ce livre, non seulement il était intéressant, mais surtout la biographie de Vernez dans la préface était édifiante.
Tout à l'heure, vous avez parlé du fait qu'il faut faire rigoler le public.
Oui.
Pour qu'ils arrivent pour arriver à passer un message, finalement, que les gens arrivent à comprendre. Donc, on passe par les rires pour faire comprendre des choses. Mais comment vous arrivez à trouver un équilibre entre humour et sérieux dans cette pièce? Parce que finalement, on part de plein de choses dramatiques, mais en même temps, on passe notre temps à rigoler. Comment vous avez pu trouver ça, cet équilibre?
Bah, j'ai l'impression qu'en fait, on rit jaune à chaque fois. Hein. C'est-à-dire que le rire est un rire subversif qui nous fait réaliser des choses. Donc en fait, le tragique, on le sent dans son corps, il me semble. Hein, on le sent... de fait, sans que moi, en tant que metteur en scène ou comédienne, j'ai besoin d'appuyer la chose. Alors, par moments, on l'appuie et on y va à fond. Quand le dictateur arrive, on est dans une autre atmosphère qui est beaucoup plus tragique. Mais sinon, je pense que c'est quand même par une forme de légèreté que le public peut se sentir libre, lui, de tirer les conclusions et de penser. Alors que si on fait une chose entièrement tragique, on risque de le coincer. C'est-à-dire, ah, c'est terrible, qu'est-ce qu'on fait? Il est paralysé. Le rire permet peut-être d'agir après.
Thank you.
Et j'ai une dernière question sur la scénographie. Donc, on voit ces murs, la scénographie est très simple, et on voit ces murs au fond du plateau, ces murs noirs qui petit à petit se remplissent des choses comme un collage. Comment vous avez réfléchi à la scénographie? Pourquoi ces murs?
Alors, c'est intéressant parce que le mur est arrivé assez vite avec la scénographe Charlotte Villermet. Très vite, je lui ai dit, je voudrais un mur qui tombe à la fin. Parce que le mur, hein, les murs à travers le monde, c'est pour moi toujours quelque chose qu'il faut abattre. Dès qu'on construit un mur, hein, il y en a à la frontière avec le Mexique, en Israël, etc. Dès qu'on construit un mur, on met une frontière. Or, moi, je pense qu'on est tous citoyens du monde et qu'on devrait être frères. Donc voilà, l'idée d'un mur qu'on abat à la fin me plaisait beaucoup. 3 jours avant la première, j'ai eu l'idée de le remplir de toutes les campagnes de Bernaise. Ça s'est vraiment fait en dernière minute. Je l'ai fabriqué comme ça, chez moi, et après on l'a fait en grandeur nature. Et c'était effectivement intéressant parce que c'est comme une page image Google. C'est-à-dire, c'est toutes les campagnes de Bernaise, toute la propagande par l'image, affichée devant nous, se construisant au fur et à mesure et devenant tentaculaire, exerçant cette pression quotidienne qu'on a quand on sort dans la rue. Il y a des images absolument partout, de la pub. Voilà, on ne peut pas y échapper.
Donc au début, ces murs étaient vides.
Oui, ouais.
Et ils tombaient à la fin. Oui, bon, je ne veux rien dire, mais ils tombaient quand même à la fin, mais ils restaient vides pendant toute la pièce.
Tout à fait, ouais.
D'accord. Et j'ai vu que vous définissiez votre théâtre comme un théâtre brechtien. Est-ce que vous pourrez me dire en quoi vous faites référence à Brecht?
Oui, Brecht
En quoi
disait,
Brecht est une référence pour vous?
parce que Brecht disait, déjà, il était très engagé, voilà, il faisait du théâtre d'engagement, hein, ce qui moi me parle, puisqu'on disait justement que le théâtre devait avoir sa place au sein de la cité, d'autant plus aujourd'hui. Et il a théorisé cette histoire de distanciation qui permet aux gens de réfléchir tout en étant touchés par ce qui se passe sur le plateau, évidemment. Et en même temps, il avait l'idée qu'il fallait à la fois instruire et divertir. Et je pense que ça, c'est vraiment important parce que le divertissement, quand on va au théâtre, c'est essentiel. Après une journée de travail, on n'aura pas envie d'aller au théâtre pour des choses très dures, ou en tout cas moins de gens auront envie pour des choses très dures, difficiles de se relever, etc. Alors que le théâtre, pour moi, doit rester une fête, doit rester un moment où on se dit, waouh, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Un moment de découverte, d'excitation, de rencontre. On se dit qu'il va, voilà, il va y avoir des surprises. Donc, il faut que le théâtre reste un moment comme ça pour le spectateur, et en même temps, ça n'empêche pas de raconter des choses importantes. Et je voulais dire un mot à ce sujet, si c'est possible, c'est
Oui,
vraiment important pour moi, voilà, de dire à quel point c'est important pour nous, pour le spectacle et pour toute l'équipe, qui est vraiment une équipe à part entière. Déjà, ça c'est la première chose que je voulais dire, une équipe artistique et administrative et technique à part entière. C'est-à-dire, c'est un spectacle, évidemment, je l'ai écrit, mis en scène, mais les acteurs ont eu une part très très active dans la création, ils sont très propositionnels et très engagés dans le projet. Donc ça, c'est vraiment important pour moi de dire que c'est quand même toute une équipe qui a fabriqué ce spectacle. Et la deuxième chose, c'est que c'est important pour nous d'être programmés au Théâtre de la Concorde, qui a ouvert en septembre, qui axe sa programmation sur théâtre et démocratie, qui ne fait pas que du théâtre, il y a de la musique, il y a des ateliers, il y a des débats, énormément de choses, et qui fait vraiment sens pour nous. Elsa Boublil, la directrice, a vu le spectacle, s'est dit que c'était tout à fait ce genre de choses qu'elle voulait défendre dans son théâtre, parce que c'est un lieu où on peut à la fois voilà, passer un bon moment de théâtre et en même temps débattre. Et on fait d'ailleurs de nombreux bords-plateaux avec Pierre Asky, Nora Hammadi, David Colomb, des gens qui ont travaillé sur le sujet et qui peuvent apporter un éclairage contemporain sur la question.
Et j'ai une dernière question à propos des acteurs. Donc, effectivement, il y a plusieurs, vous changez les rôles tout au long de la pièce. Est-ce que vous changez cette distribution d'une représentation à une autre ou c'est fixé?
C'est fixé, c'est toujours la même, sauf que en 9 ans. Oui. Il y a des rôles qui ont dû être repris par d'autres. Et puis, il y a cette petite forme légère qu'on fait à deux acteurs qui est un peu plus courte. Et comme on n'est que deux, on a dû redistribuer complètement le texte. Donc, en réalité, chacun des acteurs connaît le texte de tout le monde.
D'accord.
Mais voilà, quand c'est nous quatre qui jouons, c'est toujours la même distribution.
Et est-ce que vous pourriez nous parler de... Est-ce que vous êtes en train de préparer un nouveau projet
avec... J'aimerais beaucoup travailler sur l'impact d'Internet aujourd'hui dans le vote, dans les décisions qu'on prend quand on doit élire un président ou voter la sortie du Royaume-Uni, de l'Europe, par exemple. J'ai lu un livre de Christopher Wiley, qui est un lanceur d'alerte, qui a travaillé à Cambridge Analytica, qui était cette société qui a volé des données Facebook pour orienter l'élection de Trump et le Brexit. Et je trouve ça passionnant. Donc j'essaie d'obtenir les droits de ce livre pour peut-être l'adapter. En tout cas, je travaille sur les nouveaux médias par lesquels peut passer la propagande aujourd'hui ou la manipulation du vote.
Merci beaucoup, Julie Timmerman, d'être été avec nous.
Merci beaucoup. Soir.
N'hésitez pas à aller voir Un démocrate au Théâtre de la Concorde et donc à découvrir toute cette riche programmation. Merci Julie.
Merci, au revoir.
Au revoir. Merci encore à Julie Timmerman et merci au Théâtre de la Concorde pour cette belle et riche programmation. Ne ratez pas Un démocrate et faites aussi un tour sur les sites du théâtre pour découvrir les ateliers gratuits, les scènes ouvertes, les concerts et les soirées proposées dans ces nouveaux lieux, juste à côté des places de la Concorde. Pendant l'interview, vous avez écouté des extraits sonores de la pièce. Et maintenant, c'est le moment des chroniques.
Il s'agit d'une histoire. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un concept d'histoire.
Ce soir, on va donc vous parler des Peter Pan, une mise en scène de Mathieu Comblaz au Théâtre Paris-Villette, jusqu'au 28 avril, et des Gratitudes, une mise en scène des Fabien Gorgéard jusqu'au 27 avril au Théâtre de la Porte Saint-Martin. Mais on commence par Peter Pan. Alice et Julien, on vous écoute.
Peter Pan. Peter Pan de Mathieu Comblaz. Alors, l'histoire, vous la connaissez, c'est l'histoire de ce petit garçon qui vient frapper à la fenêtre d'un trio de jeunes enfants londoniens. Et ils vont le suivre, ils vont à Neverland affronter des pirates, affronter des peaux rouges. Et surtout se confronter à ce monstre qui est le crocodile qui fait tic-tac, tic-tac. Alors, je l'ai dit, l'histoire, elle est bien connue. Et Mathieu Comblaz, j'imagine que c'est comme ça qu'on prononce son nom, il va rechercher le texte de Barry, l'auteur original, pour en retrouver toute la violence, la culture coloniale, ce mot de peau rouge notamment, et profondément misogyne, avec cette jeune fille... Et j'oublie son nom.
C'est pas Wendy.
Wendy, merci. Qui, en gros, est destinée à être la mère de tous ses enfants perdus. Alors, la mise en scène est enjouée. Elle est vraiment rythmée, c'est chanté. Alors, c'est fait avec énormément de rythme, énormément d'envie. Les enfants rient, les enfants sont vraiment emportés. Les adultes qui sont là, moi y compris, on ne s'ennuie pas. C'est déjà pas mal dans un spectacle qui est pour enfants. Et on est même plutôt secoué, plutôt bousculé. Puisque finalement, c'est aussi notre mémoire des contes pour enfants qui est appelée là. Est-ce que finalement, ce Peter Pan qui est horrible dans son écriture, est-ce que les autres contes qu'on regarde pas souvent avec nostalgie sont pas tout aussi horribles? Alors, le Peter Pan, n'allez pas chercher le Peter Pan de Walt Disney ou des autres versions très aseptisées qu'on a aujourd'hui. Il n'est pas un petit bonhomme adorable. C'est un être cruel, profondément égocentrique, qui utilise les autres, qui cherche vraiment à dominer, qui élimine celles et ceux qui ne lui conviennent pas. Et nous, adultes, ben justement, on y trouve notre place. On est là à se sentir mal à l'aise, à se demander d'ailleurs si c'est toujours pour les enfants. Alors, les enfants, eux et elles, ben forcément, ils connaissent l'histoire de Peter Pan, donc ils sont pas spécialement arrêtés par ça. j'aurais envie de me poser la question, est-ce que les enfants qui ont vu ce spectacle ont vu ce Peter Pan cruel, ou est-ce qu'ils ont de toute façon retrouvé le Peter Pan qu'ils connaissaient déjà? Ceci étant, en tout cas, c'est intéressant, ce spectacle qui est très bien ficelé, de voir comme il nous dérange. C'est nécessaire, me semble-t-il, de se sentir dérangé par ce conte. Et puis, j'y reviens, les comédiens, comédiennes sont très bons, ils occupent l'espace avec leur voix, avec leurs gestes. C'est un spectacle qui a quand même le mérite de faire garder le silence à part les « Oh !» émerveillés des enfants pendant que ça se déroule. Donc c'est plutôt bon signe. Et le fait qu'on puisse se dire « Ah, c'était pas mal !» en sortant, moi je trouve que ça vaut le coup.
Alors c'est vrai que moi, Julien, j'ai pas eu le même enthousiasme que toi. J'ai eu du mal à rentrer dans le spectacle. Parce que pour moi, le fait que les acteurs jouent différents personnages, déjà, enfin, j'arrivais pas, je m'attachais à un personnage et puis je le voyais se transformer en un autre. Et en fait, ça m'a perdue. Alors, ensuite, j'ai ressenti comme une intention assez volontaire de montrer que c'est de la poésie avec des petites bulles, la fée clochette qui vole au-dessus de nos têtes.
C'est quand même très réussi, cette fée clochette.
Bah ouais, mais moi, je sais pas. De mon point de vue, le rêve comme la poésie prennent leur épaisseur et leur saveur lorsque le songe ou le poème entre par effraction dans le réel. Et là, on nous montrait, en fait, bah, que c'est beau, que c'est enfantin, que même si tu l'as dit, le personnage de Peter Pan est cruel et égocentrique. Voilà, on le sait, hein. Mais ici, tout est calculé avec les représentations que l'on se fait de l'enfant. Un vague souvenir flou, c'est vrai. Après tout, qu'est-ce qui nous reste de l'enfance ? L'usage du théâtre d'ombre, par contre, je l'ai trouvé intéressant, mais je ne voyais pas trop où cela menait. Bon, effectivement, on est allé au pays de Neverland. Mais pour moi, il n'y avait rien de concret. Alors, c'est vrai qu'un rêve, c'est pas forcément concret, mais voilà, je sais pas. J'ai pas réussi à me raccrocher à quelque chose de précis. Donc, difficile d'y croire. Et puis, ce capitaine Crochet, alors, je ne le voyais pas du tout criminel. À la fin, enfin, je ne vais pas révéler...
Oui, il y a de la nuance. Il y a de la nuance.
Mais je ne le voyais pas du tout criminel. J'y croyais pas, en fait. Ce n'était pas crédible. Et puis, ce télescopage de plusieurs registres musicaux qui s'entremêlent entre rock, lyrique... j'ai pas vraiment... Je suis restée à la surface et je me suis dit que finalement, c'était un spectacle assez esthétique. Il est vrai. Alors c'est vrai que j'ai pas lu le texte original de Peter Pan, mais bon, j'ai vu comme tout le monde le Disney, hein, mais voilà, bon, après, en tout cas, et n'hésitez pas à aller vous faire votre propre avis, parce que je pense que c'est quand même un spectacle de qualité, c'est bien joué, et puis les créations musicales sont quand même intéressantes.
Une nuance quand même, avec enfant. Parce que c'est pas forcément, ça vaut pas forcément le coup d'y aller comme ça pour un adulte. Mais allez-y avec vos enfants, ça vaut le coup.
Bon, c'est sûr, bien qu'on soit de grands enfants, c'est pas le spectacle pour enfants que j'ai préféré. Mais voilà, c'est quand même un spectacle de qualité. Hein.
Merci beaucoup, Julia et Alice, pour cette chronique. Et avant de poursuivre, on écoute Il paese delle favole du groupe Nomadi.
Peter Pan non lotta più, ha venduto il suo pugnale. Capitano Uncino manda Wendy a battere sul viale. L'isola incantata è già stata lottizzata e Alice nelle bottiglie cerca le sue meraviglie. Paperino sta in catena e lavora di gran lena. Paperina con passione vende baci a Paperone. I qua qua sono andati via, vanno a rischi nell'autonomia. E voi intellettuali ne avete già discusso? A che serve poi menarla con la storia del riflusso? Don Chisciotte non è contento, ma lavora in un molino a vento. Alibaba i 40 ladroni hanno già vinto le elezioni. Hansel e Gretel hanno fondato una fabbrica di cioccolato. E Alice nelle bottiglie cerca le sue meraviglie. Stivali delle sette leghe pagan bolle assicurazione, le scope delle streghe le ha battute l'aviazione, pollicine nella CIA di fanfarla microspia. E voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia del riflusso? Cenerentola una Jaguar, un vestito molto fine. Ogni volta che c'è un prince leva scarpe e mutandine. La matrigna vecchia arpia, prendi i soldi e metti via. E voi intellettuali non avete mai discusso di come torna l'onda alla fine del riflusso?
On poursuit, toujours avec vous, avec les gratitudes. Une mise en scène de Fabien Gorgéard, jusqu'au 27 avril, au Théâtre de la Porte Saint-Martin. Alice et Julien, on vous écoute. Tout commence, Alice.
Alors, à la lecture de la feuille de salle, le sujet de la vieillesse ne m'avait pas vraiment donné envie d'aller voir cette pièce, au premier abord. Mais quand j'ai réalisé que c'était Catherine Nigel qui jouait cette pièce, je me suis dit qu'il ne fallait absolument pas rater cette occasion. C'est vrai que ne ratez pas cette occasion, car nous l'avions déjà vu jouer dans une pièce de Jean-Luc Lagarce, Les règles du savoir-vivre dans la société moderne, et son jeu ciselé faisait l'effet d'un acide citrique, révélant le cynisme de ce texte désespérant. Mais là, dans cette pièce, en fait, je sens la même justesse. Mais son jeu est d'une humanité bouleversante. C'est l'histoire d'une femme âgée, ancienne parolière, qui perd peu à peu l'usage de la parole. Elle est placée dans un EHPAD, et c'est un texte sur la perte et la recherche de ce qui n'a jamais pu être dit avant de disparaître. Rendre grâce à ces liens d'attachement qui nous font vivre. Le passage où cette dame âgée chante « Il pleut sur Nantes » de Barbara est sublime. La mise en scène est simple, réelle et prend les couleurs du rêve. Ces deux partenaires de jeu sont très justes également, Laure Blatter et Pascal Sangla, nominés également au Molière en 2022 pour son meilleur second rôle. On vous recommande sans hésitation d'aller voir cette pièce, c'est beau, d'entendre un texte littéraire ne pas rester lettre morte au spectacle vivante. Un texte de Delphine de Vigan, elle aussi reconnue par de nombreux prix. Vraiment, allez la voir, c'est magnifique.
Alors, contrairement à toi, Alice, moi, j'ai pas trouvé la mise en scène si simple. Moi, je trouve qu'elle est plutôt audacieuse. Cette façon de mettre en relief notre mémoire et le sujet de la mémoire qui est dans la pièce est assez surprenant. Moi, j'ai même eu quelques hésitations, quelques craintes même au début. Et puis, j'ai été emporté. J'ai été emporté par un trio de comédiens et comédiennes qui est véritablement enthousiasmant. Durant ce spectacle, j'ai été secoué. Et je pense qu'on ne peut pas assister à ce spectacle sans être complètement secoué. Je me suis projeté, je me suis questionné sur ce que je transmets, sur ce que je vais perdre. C'est très clairement une mise en danger qu'on ressent à travers elle. Et cette mise en danger de la vieillesse, cette peur de tout ce qu'on va ne pas tout ce qu'on va oublier, tout ce qu'on aurait envie de laisser, c'est tout ça qui est secoué par ce spectacle. Franchement, c'est un spectacle qui va vous rester dans le crâne, un peu comme une chanson populaire, qui est ces chansons populaires qui nous interrogent tout le long du spectacle. Vraiment, n'hésitez pas, allez-y, c'est un très grand moment.
Merci Alice et merci à Julien pour cette dernière chronique. Ce soir, on vous a également parlé des Peter Pan, une mise en scène de Mathieu Comblaz au Théâtre Paris-Villette jusqu'au 28 avril. Et l'invité, nous avons reçu Julie Timmerman pour parler d'un démocrate jusqu'au 26 avril au Théâtre de la Concorde. Cette émission a été préparée par Camilla Pizzichillo avec la complicité d'Alice Valla, Julien Honte et réalisée par Guigui. On vous donne rendez-vous au lundi 19 mai à 20h sur Radio Campus Paris. Bonne soirée à toutes et à tous. Bisous.
Thank you.